Chapitre 35. La chose juste.
Tu as bien compris ce que tu dois faire ?
Demanda Egwen, alors qu'elle remontait un couloir en direction de ses appartements. Xuan acquiesça.
Si nos adversaires se montrent,
insista la chère d'Amerline,
tu ne te laisseras pas entraîner dans un affrontement. Nous ne sommes pas des enfants, mère,
lâcha sèchement Xuan.
Non, vous êtes des Aes Sedai, c'est-à-dire des êtres encore plus désobéissants.
Devant le regard glacial de Xuan, Egwen regretta ses propos. À cause de sa nervosité, ils avaient dépassé sa pensée. Du coup, elle se força au calme. Pour inciter Messahana à sortir de l'ombre, elle avait recouru à plusieurs types de leurres. Jusque-là, sans résultat. Egwen aurait juré qu'elle avait senti la rejeter l'observer dans le monde des rêves. Mais Yukiri et son groupe n'étaient arrivés à rien. Le grand espoir, la réunion de ce soir. Là, ça devait fonctionner. Il le fallait, parce que Egwen était à court de temps. Les monarques qu'elle avait convaincus approchaient déjà, et les forces de Rand se rassemblaient. C'était ce soir ou jamais.
« Va parler aux autres, »
dit Egwen.
« Je ne veux aucune erreur stupide. »
« Oui, mère, »
marmonna Xuan avant de s'éloigner. Mais Egwen la rappela.
« Ma fille !»
La chère d'Amerline déchue hésita.
« Ne prends pas de risques insensés ce soir. Je ne voudrais pas te perdre. »
D'habitude, Xuan n'était jamais à court de réponses caustiques dans de telles circonstances. Là, elle se contenta de sourire. Egwen secoua la tête et fila vers ses appartements où Sylviana l'attendait.
« Gawain ?»
demanda la jeune dirigeante.
« Aucune nouvelle de lui. Cet après-midi, je lui ai envoyé une messagère, mais il n'est pas revenu. Je suppose qu'il tarde à répondre pour faire son intéressant.
C'est une tête de mule, tout le monde le sait. »
Sans lui, Egwen se sentait exposée. Une étrange réaction, puisqu'elle lui avait ordonné de se tenir très loin de sa porte. Et voilà qu'elle s'inquiétait parce qu'il n'était pas là.
« Double ma garde, et assure-toi qu'il y aura des soldats dans le secteur. Si mes tissages se désactivent, ils devront donner l'alerte. »«
Oui, mère, »
répondit Sylviana.
« Envoie un autre message à Gawain, avec une lettre plus... courtoise. Demande-lui de revenir, mais ne le lui ordonne pas. »
Sachant ce que Sylviana pensait du jeune homme, la première missive n'avait pas dû être très aimable. Sur ces mots, Egwen prit une grande inspiration, entra chez elle, vérifia ses tissages de garde et se prépara à se coucher.
« Je ne devrais pas me sentir si fatigué, »
songea Perrine en mettant pied à terre.
« Qu'ai-je fait à part bavasser ?»
Le procès pesait sur ses épaules, et sur toute l'armée, aurait-on dit. Perrine regarda la colonne qui s'en revenait, Morgaz l'accompagnant de sa propre volonté. Fail ne l'avait pas quitté des yeux durant tout le trajet, sans dire un mot, mais avec de la colère dans son odeur. Aliandre et Berelaine, elles, avaient gardé leur distance. Morgaz venait de condamner Perrine. Pour être franc, il s'en fichait comme d'une guigne. Le combat contre les capes blanches évité, il allait devoir conduire ses gens en sécurité. Morgaz traversa le camp à cheval, en quête de Lini et de Maître Gil. Comme Galad d'Amodred l'avait promis, ils étaient là, ainsi que les autres prisonniers. Suprême bizarrerie, le seigneur général avait aussi renvoyé les charrettes et leurs chargements. Dans cet ordre d'idées, le procès était une victoire. Mais les hommes de Perrine ne voyaient pas les choses ainsi. Une fois au camp, les soldats se séparèrent par faction, sans converser beaucoup entre eux. Près de Perrine, Gaul secoua la tête.
« 2 pointes d'argent, » murmura-t-il.
« Pardon ?»
demanda Perrine, entendant à un palefrenier les rênes de marcheurs.
« Un dicton, Aiel, »
répondit Gaul en regardant le ciel.
« 2 pointes d'argent. Deux fois nous avons chevauché vers la bataille, sans trouver d'ennemis. Une troisième, et nous serons déshonorés. »
« Il vaut mieux ne pas trouver d'ennemis, Gaul, et ne pas verser de sang. »
Laiel éclata de rire.
« Perrine Aibara, ai-je dit que je voudrais mettre un terme à mon rêve ? Mais regarde tes guerriers. Ce que je dis, ils le sentent. On ne doit jamais danser avec les lances sans raison, mais il ne faut pas non plus demander à des hommes de se préparer à tuer, et ne pas leur offrir de cible. Pas trop souvent, en tout cas.
« Je le ferai autant de fois que je voudrai, »
grogna Perrine.
« Si ça peut éviter un massacre, je... »
Un bruit de sabots retentit, puis le vent porta le parfum de Fail jusqu'aux narines de Perrine. Il se retourna, faisant face à sa femme.
« Tu as évité une bataille, »
railla Gaul.
« Mais une autre t'attend. Puisses-tu trouver de l'eau et de l'ombre, Perrine Aibara ?»
Sur ces mots, Gaul s'éclipsa, pendant que Fail mettait pied à terre.
« Très bien, mon époux !»
fit-elle en fondant sur Perrine.
« À présent, tu vas m'expliquer ce que tu avais en tête. Galad, tu l'as laissé te faire juger, et tu as promis de te soumettre à lui ? Jusque-là, je n'avais pas le sentiment d'être marié à un crétin.
Je ne suis pas un crétin,
s'indigna Perrine.
Tu me répètes sans cesse que je dois commander. Eh bien, aujourd'hui, je t'ai écouté.
Oui, pour prendre la mauvaise décision.
Il n'en avait pas de bonne.
Si, tu aurais pu nous laisser affronter ses fils.
Il compte participer à l'ultime bataille,
rappela Perrine.
Cet homme que nous aurions tué aurait été un adversaire de moins pour le ténébreux. Moi, mes soldats, les capes blanches, tout ça ne compte pas face à ce qui nous attend. Il faut que ces types vivent, et nous aussi. Et c'était la seule solution.
Lumière. Crier après Fail semblait si déplacé. Pourtant, c'était un moyen imparable de la calmer. Curieusement, les soldats qui allaient et venaient hochèrent la tête, comme s'ils n'avaient pas compris la vérité avant que leur chef la braille à tous les vents.
« Je veux que tu commandes notre repli, »
dit Perrine à sa femme.
« Le piège n'est pas encore déclenché, mais je me sens plus mal de minute en minute. On nous épie. Quelqu'un nous a privés de nos portails et veut nous voir morts. À présent, l'adversaire sait que nous ne combattrons pas les capes blanches, donc il devra attaquer très bientôt. Ce soir, peut-être. Ou demain matin, si nous avons de la chance.
Nous n'avons pas encore terminé cette conversation.
Fail, ce qui est fait est fait. Regarde devant toi.
Très bien.
Ses yeux noirs brillant de rage, Fail réussit pourtant à se contenir.
Je dois aller dans le rêve des loups,
dit Perrine, en jetant un coup d'œil à leur tente.
Soit je détruirai ce dôme, soit je forcerai Teur à me dire comment rendre nos portails de nouveau opérationnels. Prépare tout le monde au départ. Que les Achamans essaient d'ouvrir un portail toutes les 100 secondes. Dès que ça fonctionnera, sors nos forces de ce piège.
Pour aller où ?
Demanda Fail.
Jeanna ?
Perrine secoua la tête.
C'est trop près. L'ennemi peut nous y attendre. Le royaume d'Andorre, Camlin, pour être plus précis. Non, plutôt Pont Blanc. Restez loin de tous les endroits où on risque de nous attendre. De plus, je ne veux pas débarquer chez Elaine avec une armée avant de l'avoir prévenue.
Un bon plan,
concéda Fail.
Si tu redoutes une attaque, il faudra évacuer les civils d'abord. Sinon, une fois les soldats partis, ils seront trop vulnérables.
D'accord, mais fais-les traverser dès que les portails seront ouverts.
Et si tu échoues ?
Désormais, Fail parlait comme une femme déterminée, effrayée, certes, mais résolue à agir.
Si je n'ai pas libéré les portails dans une heure, dirigez-vous vers la zone où Néald a pu de nouveau en ouvrir. Je doute que ça réussisse, parce que Tuor déplacera le dôme. Mais c'est mieux que de ne rien tenter.
Fail acquiesça. Pourtant, dans son odeur, Perrine reconnut de l'hésitation.
Nous serons en marche, pas dans un camp, ce qui nous rendra plus vulnérables à une embuscade.
Je sais. Voilà pourquoi je n'ai pas le droit d'échouer.
Fail enlaça son mari et se serra contre lui. Quel formidable parfum. L'odeur de Fail. Pour Perrine, il n'y avait rien de meilleur.
Tu as dit que Tuor est plus fort que toi,
souffla la jeune femme.
Et c'est vrai.
Puis-je faire quelque chose pour t'aider ?
Veillez sur les nôtres pendant mon absence. Ça, ce sera une aide précieuse.
Il n'y a rien d'autre à faire ?
Perrine s'écarta de son épouse.
Fail, je suis presque certain qu'il s'agit du seigneur Luc. L'odeur est différente, mais il y a une similitude troublante. Et quand j'ai blessé Tuor dans le rêve des loups, le seigneur Luc arborait la plaie.
C'est censé me rassurer ?
Nous en revenons aux sources, Fail. Après en avoir fini avec Malden, nous nous sommes retrouvés à un jet de pierre des derniers fils de la lumière, avec Biar et Bornald dans l'eau. Puis Tuor est revenu dans le rêve des loups. Cet homme dont je t'ai parlé, Noam, celui qui était en cage, tu te rappelles où je l'ai trouvé ?
D'après ce que tu m'as dit, tu poursuivais Rand à travers...
Le Gealdan, oui. À moins d'une semaine de cheval d'ici.
Une étrange coïncidence, mais...
Avec moi, il n'y a jamais de coïncidence, Fail. Je suis ici pour une raison. Tuor aussi. Je dois regarder ça en face.
Fail acquiesça. Lui lâchant la main, Perrine se dirigea vers leur tente. Grâce à une infusion qu'il devait au matriarche, il s'endormirait très vite et entrerait dans le rêve des loups. Il était plus que temps.
« Comment as-tu pu le laisser partir ?»
demanda Biar, les phalanges blanches à force de serrer la poignée de son épée. Leurs capes battant au vent, Bornald, Galad et lui marchaient au milieu de leur camp.
« J'ai fait ce qui était juste, fils Biar. Le laisser libre n'était pas juste. Tu ne peux pas croire que... »«
Fils Biar !»
coupa Galad.
« Ton attitude ressemble de plus en plus à de l'insubordination. Sache que ça me trouble, et que ça devrait te troubler aussi. »
Biar ferma la bouche et ne la rouvrit pas. Galad nota cependant que garder le silence lui coûtait un gros effort. Derrière son camarade, Bornald avançait en silence, l'air plus que perturbé.
« Je pense qu'Aibara tiendra parole, » dit Galad. « Et si ce n'est pas le cas, je dispose désormais de tous les moyens légaux de le traquer et de lui infliger un juste châtiment. Ce n'est pas idéal, mais il y avait de la sagesse dans ses propos. Moi aussi, je crois que l'ultime bataille approche. Dans ce cas... Il est effectivement temps de nous unir pour affronter les ténèbres.
« Seigneur général, » dit Biar d'un ton modéré, « sauf ton respect, Cet homme est un allié des ténèbres. Il ne se battra pas à nos côtés, mais contre nous. Si tu as raison, nous aurons une occasion d'en découdre avec lui sur le champ de bataille. Ma décision est prise, fils Biard.
Arnesh rejoignit le trio et salua son chef.
Fils Arnesh, on lève le camp.
Seigneur général, tard ?
Oui, nous progresserons de nuit, pour mettre de la distance entre Aibara et nous, juste au cas où. Laisse des éclaireurs, pour vérifier qu'il ne nous suit pas. Nous partons pour Lugard. Là, nous nous réapprovisionnerons, nous recruterons des hommes, puis nous continuerons vers Andorre.
Oui, seigneur général,
fit Arnesh. Dès qu'il fut parti, Galad se tourna vers Biard. Le fils le salua, du ressentiment dans ses yeux enfoncés dans leurs orbites, puis il s'éloigna. Galad s'immobilisa entre deux tentes blanches. Les mains dans le dos, il regarda les messagers transmettre ses ordres dans tout le camp.
« Tu es bien silencieux, fils Bornald, » dit-il après un moment. « Es-tu aussi mécontent de moi que le fils Biard ?»«
Je ne sais pas. J'ai longtemps cru qu'Aibara avait tué mon père. À présent, voyant comment Jared Biard agit et me souvenant de sa description, eh bien, il n'y a aucune preuve. J'enrage de l'admettre, Galad, mais c'est la vérité. Cela dit, Aibara a bien tué Latin et Yamwick. S'il a assassiné des fils, c'est qu'il est un suppôt des ténèbres. Moi aussi, j'ai tué un fils. Et on m'a accusé de la même façon. C'était différent.
Bornald semblait troublé par quelque chose dont il ne tenait pas à parler.
Sur ce point, tu as raison, admit Galad. Je ne dis pas qu'Aibara doit être absous, mais les événements de cette journée me laissent un drôle de sentiment.
Galad secoua la tête. Trouver des réponses aurait dû être facile. En général, il déterminait aisément la chose juste à faire. Là, même s'il était sûr d'avoir pris la bonne décision vis-à-vis d'Aibara, des inquiétudes le rongeaient insidieusement. Comme Morgaz le disait souvent, vivre n'était pas aussi simple que jouer à pile ou face. L'avers ou le revers, de simples illusions. Il détestait ce qu'il éprouvait, radicalement. Perrine s'emplit les poumons d'air. Dans le rêve des loups, des fleurs s'épanouissaient sous le ciel noir pourtant déchiré d'éclairs argent et or. Les odeurs étaient tellement incongrues. Une tarte aux cerises en train de cuire, du crottin de cheval, de l'huile et de la graisse, du savon, un feu de bois, du thym, de l'arate, de l'herbe à chat et une centaine d'autres plantes qu'il ne pouvait pas identifier. Très peu d'entre elles étaient à leur place dans la prairie où il évoluait. Prudent, il avait pris soin de ne pas apparaître trop près de la version onirique de son camp, histoire de ne pas tomber sur tueur, bien entendu. Les odeurs se révélèrent éphémères. Elles disparaissaient trop vite, comme si elles n'avaient jamais été là.
« Sauteur !»
appela Perrine. « Je suis là, jeune taureau. » Le loup se matérialisa près de son ami humain.
« Les odeurs sont étranges. »
Elles se mélangent, comme les eaux d'un millier de rivières. Ce n'est pas naturel, et pas bon non plus. Cet endroit se détériore. Perrine acquiesça. Se décalant, il se retrouva dans un champ de nigelles des blés, juste à la lisière du dôme. Sauteur apparut sur sa droite, chacune de ses foulées faisant se coucher des tiges. Énorme et surnaturel, le dôme écrasait le paysage. Alors que le vent malmenait les fleurs et les branches des arbres, des éclairs silencieux déchiraient le ciel.
Il est là, émit Sauteur. Toujours.
Perrine hocha la tête. Tueur venait-il dans le rêve des loups de la même façon que lui? Y passer du temps le fatiguait-il aussi? Difficile à dire. À première vue, on eût dit qu'il ne quittait jamais ce monde. Il protégeait quelque chose. Dans le rêve des loups, il devait exister un moyen de désactiver le dôme.
« Jeune taureau, nous approchons. »
Le message était de danse entre les chaînes. Sa meute arrivait, mais elle n'était plus forte que de 3 membres. Étincelle, sans frontières et la louve elle-même. Ces loups avaient choisi de venir ici, au lieu de suivre ceux qui couraient vers le nord. Les 3 se matérialisèrent à côté de Sauteur. Les regardant, Perrine leur fit part de son inquiétude.
« Ça risque d'être dangereux. Des loups peuvent périr. »
La réponse fut sans appel.
« Tueur doit mourir pour ce qu'il a fait. Ensemble, nous sommes forts. Jeune taureau, tu ne peux pas chasser seul une proie si féroce. »
Perrine acquiesça, tandis que son marteau se matérialisait entre ses mains. Ensemble, ils approchèrent du dôme. Refusant d'afficher la moindre faiblesse, Perrine le traversa en force. Il était puissant. Le dôme, lui, ne valait pas mieux que de l'air. Et le monde, avait-il décidé de croire, serait tel qu'il le désirait. Il vacilla, mais déboula de l'autre côté de l'obstacle. Ici, il faisait un peu plus sombre. L'écorce des arbres semblait plus grise, et la camomille puante paraissait d'un vert plus foncé. Derrière Perrine, Sauter et la meute venaient eux aussi de traverser.
« On se dirige vers le centre, » dit le jeune homme. « S'il y a un secret à découvrir, c'est là qu'il sera. »
Ils avancèrent lentement entre les broussailles et les bosquets. Perrine imposant sa volonté au décor, les feuilles et les fleurs cessèrent de bruire quand il les foulait. C'était naturel. La façon dont les choses devaient être. Le centre étant très loin, Perrine commença à progresser par bonds, sans sauter ni faire de grands pas. Simplement, il cessait d'être à un endroit pour se matérialiser dans un autre. Même si Tueur n'était pas un loup, il avait jugé bon de masquer son odeur.
« Ce ne sera pas mon seul avantage, »
pensa-t-il, alors que ses compagnons et lui approchaient du centre du phénomène.
« Tueur est plus expérimenté que moi. Cela dit, j'ai les loups à mes côtés. Ce lieu, c'est notre rêve. Lui, il reste un envahisseur. Si doué qu'il soit, ce n'est qu'un intrus. Et c'est pour ça que je gagnerai. »
Soudain, Perrine sentit quelque chose. Dans l'air, il y avait comme une bizarrerie, et elle devenait plus forte avec chaque bond. Avec les loups, il gravit une grande colline, puis regarda au coin d'un grand rocher pour découvrir le paysage. Devant le petit groupe, à moins de 50 pas, un bosquet d'arbres très anciens se dressait. Levant les yeux, Perrine estima que ces végétaux se trouvaient très près du centre du dôme. En se décalant, les cinq compagnons avaient avalé une distance considérable en quelques minutes.
« C'est là !»
annonça Perrine. Ensuite, il regarda Sauter. L'odeur du loup était elle aussi masquée, mais dans son regard, il lut de l'inquiétude. À présent, il connaissait assez ses amis pour interpréter les signes de ce genre. Il y avait aussi une façon de se tenir, les pattes un peu pliées, comme pour bondir. Alors, quelque chose changea. Perrine n'entendit ni ne sentit rien. Pourtant, il capta un indice, comme une infime vibration du sol.
« On fonce !»
lança-t-il, avant de se volatiliser. Il réapparut 10 pas plus loin, juste pour voir une flèche se planter dans la terre à l'endroit où il se tenait. Fendant une grosse pierre, le projectile s'enfonça jusqu'à son empennage noir. Ramassé sur lui-même, Sauter tourna la tête pour regarder Perrine. Ses yeux semblant noirs, son visage plongé dans les ombres, Tueur, un colosse aux muscles saillants, semblait plus impressionnant que jamais. Comme souvent, il souriait. En réalité, il s'agissait d'un rictus. En pantalon de cuir et chemise vert foncé, il avait les avant-bras nus et brandissait son arc de bois noir. À sa taille, Perrine ne vit pas de carquois. Tueur faisait apparaître ses flèches à mesure qu'il en avait besoin. Perrine soutint son regard et avança comme pour le défier. Une diversion suffisante pour que les loups attaquent par derrière. Tueur cria et se retourna au moment où Sans Frontières le percutait. Perrine se décala, se retrouva près de son adversaire et leva son marteau. Tueur se dématérialisa et l'arme frappa le sol. Mais Perrine avait senti où son ennemi était parti. Ici même, l'odeur était celle de l'endroit où Perrine se tenait. Inquiet, il leva les yeux et vit que Tueur lévitait dans les airs au-dessus de lui. Très calme, il encochait une flèche.
« Le vent, il est si fort !»
Tueur lâcha son projectile, mais une soudaine bourrasque le dévia sur le côté. Comme le précédent, il s'enfonça dans le sol, non loin de Perrine. Sans sourciller, le jeune homme leva les mains et son arc s'y matérialisa à son tour, déjà armé, avec une flèche encochée. Quand il tira, Tueur écarquilla les yeux. Puis il disparut de nouveau et réapparut au niveau du sol un peu plus loin. Sauter lui bondit dessus et le fit basculer par terre. Après un rugissement de rage, Tueur se dématérialisa.
« Là !»
émit Sauter, en même temps que l'image d'un flanc de colline. Perrine s'y propulsa en un éclair, marteau en main, et la meute le suivit. Face à 5 adversaires, Tueur se dota d'une épée dans une main et d'un couteau dans l'autre. Perrine abattit son marteau en rugissant de haine. Tueur sombra dans le sol, comme s'il était soudain liquide, et esquiva la trajectoire de l'arme. Puis il frappa avec son couteau et transperça la poitrine de danse entre les chaînes. Alors que du sang jaillissait, il frappa de nouveau et entailla le museau d'étincelles. Danse entre les chaînes n'eut même pas le temps de hurler. Alors qu'elle s'écrasait sur le sol, Tueur disparut au moment précis où Perrine abattait de nouveau son marteau. En couinant comme un louveteau, Étincelle émit une onde de douleur et de panique, avant de se volatiliser. Il se remettrait de sa blessure. Danse entre les chaînes, elle, ne verrait plus le soleil se lever. L'odeur de Tueur étant toujours la même, Perrine se retourna et propulsa son marteau sur l'épée qui tentait de lui transpercer le dos. De nouveau, Tueur écarquilla les yeux de surprise. Puis son rictus s'accentua, et il recula en gardant un œil sur les 2 loups survivants. Son avant-bras saignait là où Sauter l'avait mordu.
« Comment a généré ce dôme, Luc ?»
demanda Perrine.
« Montre-moi, puis fiche le camp. Je te laisserai filer.
« Une tirade courageuse, Louveteau, » ricana Tueur. « Surtout après m'avoir vu abattre un membre de ta meute.
Sans frontières rugit de rage et bondit en avant. Perrin attaqua simultanément, mais le sol se mit à trembler sous ses pieds.
« Non !»
pensa-t-il. Ses appuis redevinrent stables alors que Sans frontières s'écrasait par terre. Tueur se fendit, forçant le jeune homme à lever son arme. Hélas, la lame de son adversaire se transforma en fumée, traversa le marteau et se solidifia ensuite. Avec un cri, Perrin se jeta en arrière, mais l'épée déchira sa chemise et lui laissa une longue estafilade sur le torse. Une explosion de douleur s'ensuivit. Perrin cria et recula. Tueur voulut pousser son avantage, mais une masse sombre s'abattit sur lui. Sauteur. Une fois encore, il renversa le colosse, ses crocs s'enfonçant dans sa chair. Avec un juron, Tueur flanqua un coup de pied à son agresseur, qui vola dans les airs en gémissant et atterrit quelques six pas plus loin. Sur le côté, Sans frontières avait mis un terme au tremblement de terre, mais il s'était blessé à la patte. Perrin se libéra violemment de sa douleur. Le contrôle de Tueur sur ce monde se révélait très fort. Quand le jeune homme frappait, son marteau semblait s'enfoncer dans de la mélasse. Comme à son habitude, Tueur avait souri en exécutant danse entre les chaînes. À présent, de nouveau debout, il dévalait le versant de la colline, en direction des arbres. Sa blessure oubliée, Perrin le prit en chasse. Si la plaie n'était pas assez grave pour le handicaper, il imagina cependant un bandage serré pour tenir ensemble les lèvres de l'entaille et enrayer l'hémorragie. Il entra dans le bosquet juste après Tueur. La frondaison se referma sur lui et des lianes oscillèrent dans la pénombre. Il ne prit même pas le temps de les écarter. Des lianes normales ne bougeaient pas ainsi. De toute façon, elles ne pouvaient pas le toucher. Dès qu'elles approchaient trop de lui, elles se retiraient, puis s'immobilisaient. Tueur jura de nouveau, puis il fila à toute vitesse, sa silhouette à peine visible tant il allait vite. Perrin le suivit, lui aussi lancé à fond. La décision de se jeter à quatre pattes, il ne la prit pas consciemment. Pourtant, ce fut fait en un éclair, et il se retrouva en train de pister Tueur comme il avait pisté le cerf blanc. Son adversaire se montrait rapide, mais après tout, ce n'était qu'un homme. Jeune taureau, lui, appartenait à ce monde. Les arbres, les broussailles, les pierres, les rivières, tout lui était familier. Dans la forêt, il avançait à la vitesse du vent. Non content de suivre Tueur, il gagnait du terrain sur lui. Pour l'humain, chaque souche couchée en travers de la route était un obstacle. Pour jeune taureau, il s'agissait simplement d'un élément du chemin. Lui, il sautait sur le côté, puis se propulsait en avant en se servant des troncs d'arbres comme de tremplin. Les pierres et les rochers, il les survolait, si rapide qu'il aurait pu distancer le vent lui-même. Dans l'odeur de Tueur, de la peur apparut pour la première fois. Il se volatilisa, mais jeune taureau le suivit, se rematérialisant dans le champ où campait l'armée, à l'ombre de la grande épée de pierre. Jetant un coup d'œil par-dessus son épaule, Tueur jura encore, puis se volatilisa. Jeune taureau le suivit sans peine. L'endroit où les capes blanches avaient campé. Le sommet d'un haut plateau. Une grotte dans le flanc d'une colline. L'exact milieu d'un petit lac dont il survola sans peine les eaux. À chaque endroit où alla Tueur, il le suivit, se rapprochant de plus en plus. À présent, il n'y avait plus de temps pour les épées, les marteaux ou les arcs. Dans cette poursuite, jeune taureau était le chasseur et Tueur le gibier. Il atterrit au milieu d'un champ et Tueur n'y était pas. Pourtant, il capta l'odeur de sa destination. Se décalant de nouveau, il se rematérialisa à un autre endroit, mais dans le même champ. Tout autour de lui, les odeurs de lieux différents tourbillonnaient. Que se passait-il? Perrin s'immobilisa, ses pieds bottés creusant une ornière dans le sol. Puis il se retourna, déconcerté. Dans ce champ, Tueur avait dû sauter d'endroit en endroit, histoire de brouiller sa piste. Perrin tenta de sélectionner celle qu'il devrait suivre, mais les odeurs fluctuaient, puis s'évanouissaient.
« Que la lumière le brûle !»
grogna-t-il.
« Jeune taureau !»
C'était étincelle. Même blessé, il n'avait pas fui, comme Perrin se l'était imaginé. Le loup émit l'image d'une baguette d'argent de 10 pouces de long qui jaillissait du sol, au milieu d'un buisson de camomille puante. Perrin sourit et se projeta jusque-là. Saignant toujours, le loup blessé était étendu près de l'étrange objet. Un terrain gréal, à l'évidence. Vu de près, il semblait composé d'une infinité de longueurs de fils métalliques tressés comme une natte. Mesurant effectivement une dizaine de pouces, il était enfoncé dans la terre. Perrin l'en retira et contempla la pointe de l'artefact. Le dôme n'ayant pas disparu, il fit tourner le terrain gréal dans sa main, perplexe et déconcerté. Désirant que l'objet adopte une autre forme, celle d'un bâton par exemple, il fut surpris quand rien ne se passa. L'artefact semblait repousser son esprit.
« Ici, il est dans sa réalité. »
Ce message d'étincelle avait un sens profond. Dans le rêve des loups, cet artefact était beaucoup plus concret que la plupart des choses. Perrin n'eut pas le temps de s'apesantir sur la question. La priorité, c'était de déplacer le dôme, pour qu'il n'emprisonne plus ses gens. En un éclair, il se propulsa à l'endroit où il était entré dans la structure de verre. Comme il l'espérait, le centre du dôme se déplaça avec lui. C'était bien par là qu'il était passé. Mais la lisière du dôme avait changé de position. En d'autres termes, le centre se déplaçait selon les mouvements du jeune homme. Sur ces nouvelles coordonnées, la structure s'étendait très loin dans les deux directions.
« Jeune taureau !»
émit étincelle.
« Je suis libre. La bizarrerie a disparu. »«
Phil !»
dit Perrine.
« Je vais prendre cet objet et m'en débarrasser. Vous trois, courez dans des directions différentes en rugissant. Il faut désorienter tueur. »
Les loups accusèrent réception du message à la fois dit à voix haute et émis. En Perrine, le chasseur fut frustré de ne pas avoir vaincu directement tueur. Mais il y avait un enjeu bien plus important. Le jeune homme tenta de se décaler très loin de là où il était, mais ça ne réussit pas. Même quand il tenait le terrain gréal, les règles particulières du dôme s'imposaient encore à lui. Du coup, il alla le plus loin possible dans le respect de ses limites. Néald ayant parlé d'environ 4 lieues, entre le camp et le périmètre de neutralisation, il choisit cette distance, vers le nord, puis recommença plusieurs fois. Le dôme géant le suivit, son centre restant toujours directement au-dessus de sa tête. Il devrait trouver un endroit sûr où planter le terrain gréal. Quelque part où tueur ne le trouverait pas.